Vous écoutez France Inter, il est 19h15. Le journal, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Une vraie connerie, une erreur de jeunesse. Nathalie Loiseau reconnaît qu'elle a été sur une liste avec des candidats d'extrême droite quand elle était à Sciences Po. Vous l'entendrez et on verra ce que cela peut changer pour la tête de liste de La République En Marche à un mois des européennes. Un ancien Premier ministre au tribunal, François Fillon et son épouse seront jugés en correctionnel pour les possibles emplois fictifs de Pénélope révélés avant la présidentielle de 2017. Son avocat assure qu'il prouvera le contraire. Qu'en pensent les militants LR réunis à Caen ? Nous y serons. Au sommaire également ce soir, près d'un million d'espèces menacées par l'homme sur la planète. Le groupe État islamique qui revendique les attentats au Sri Lanka. Une femme, pour la première fois, arbitre en Ligue 1 de football. La sortie du dernier Avengers. Et dans 20 minutes, Pierre, la suite du téléphone seul.
Absolument. Semaine spéciale Europe avant l'élection européenne du 26 mai. Ce soir, on parle de l'agriculture. Est-ce qu'elle est soutenue ou parfois étouffée fait par l'Europe? Faut-il revoir la répartition des aides de la politique agricole commune? Le standard 01 45 24 7000 et le site de l'émission franceinter.fr.
Ce n'est pas la première fois que le passé d'une personnalité politique remonte à la surface. Il y a eu la Francisque de François Mitterrand ou Jacques Chirac vendant l'humanité dans les années 50. Voici maintenant l'épisode d'extrême droite de Nathalie Loiseau, la tête de liste de La République En Marche pour les européennes. On est en janvier 84 et la voilà qui apparaît sur une liste pour des élections à Sciences Po. Liste de l'Union des étudiants de droite, le syndicat né sur les cendres du GUD d'extrême droite qui est aujourd'hui dissous. Nathalie Loiseau avait oublié cet épisode. Elle reconnaît aujourd'hui une erreur.
Avoir figuré sur une liste où il y avait des gens d'extrême droite, c'est une vraie connerie. C'est une erreur de jeunesse, je le regrette. Je suis arrivée sur cette liste amenée par quelqu'un qui était gaulliste et qui proposait qu'il y ait du pluralisme à Sciences Po et qu'il y ait plus de femmes qui se présentent. J'aurais dû enquêter, j'aurais dû regarder qui étaient les autres colistiers. Je ne les connaissais pas, je ne les fréquentais pas, je ne les ai jamais revus. Et découvrir qu'ils étaient d'extrême droite me fait dire que c'est une vraie connerie.
Une vraie connerie, dit Nathalie Loiseau au micro de Simon Le Baron. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Connerie qui tombe mal à un mois des élections européennes. Cette nouvelle peut-elle avoir des conséquences sur la campagne de La République En Marche?
Vous savez, toute la difficulté des élections européennes pour chaque liste, c'est de réussir à mobiliser son camp, c'est-à-dire à inciter ses propres électeurs à venir voter. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2014, par exemple, lors du dernier scrutin, 56% des Français ne s'étaient pas déplacés. Il pourrait même être 59% en mai prochain. C'est en tout cas ce que prévoient plusieurs études d'opinion dans les dernières projections. Donc le problème pour La République En Marche, c'est qu'en ayant autant dramatisé les enjeux, en opposant systématiquement, vous le savez, le camp des progressistes, sous-entendu le camp du bien face à celui du mal, les nationalistes, eh bien cet épisode, cette parenthèse d'extrême droite de Nathalie Loiseau, appelons-la comme cela, a toutes les chances de faire des déçus, ou tout au moins des perplexes, parce que c'est toute la stratégie du président Macron qui, tout à coup, se trouve prise à revers. Maintenant, mesurer, quantifier les conséquences sur la campagne, difficile à dire, d'autant que le vrai test cette semaine pour La République En Marche, ce sont bien plus les mesures de sortie de crise que va présenter et expliquer jeudi Emmanuel Macron. C'est cet impact-là qui sera évidemment bien plus important.
Et voyons ce qu'il y a du côté des commentaires. Pas de surprise, merci Karine Bécard. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes, ironise. Nathalie, paye ta cotise. François-Xavier Bellamy pour les Républicains estime que ces révélations obligent Nathalie Loiseau à plus d'humilité et de simplicité. Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts lui conseille d'assumer, y compris sa part d'ombre. Pour lui, les révélations ont tout simplement mis un terme à sa carrière politique. François Fillon, le favori de la présidentielle il y a 2 ans, il sera renvoyé en correctionnel. Le candidat de la droite que les sondages donnaient vainqueur sera jugé pour l'affaire des emplois présumés fictifs de son épouse, attaché parlementaire de son mari et employé à la revue des Deux Mondes de l'ami de la famille, Marc Ladret de la Charrière. Pénélope Fillon sera elle aussi au tribunal, tout comme l'ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée, Marc Joulot. L'ancien Premier ministre est notamment renvoyé pour détournement de fonds publics. Il risque 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende. Son avocat, Antonin Lévy, n'est pas étonné de ce renvoi, il le dit chez nos confrères de France Info.
Ça fait maintenant 2 ans que, sans surprise, on en arrive à ce résultat-là. compte tenu de la manière dont la présidentielle avait été bouleversée par cette affaire, est-ce que qui que ce soit pouvait croire que de toute façon un procès n'aurait pas lieu? Je pense que c'était assez inimaginable et on n'aurait jamais pu trouver un magistrat ayant le courage de dire, après tout ce qu'il s'était passé, après les 15 perquisitions réalisées dans les locaux de l'Assemblée, dans les locaux d'un candidat à la présidentielle, à son domicile, finalement il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire circuler, c'était impensable et donc en effet, comme finalement prévu, ce renvoi a fini par être prononcé. Dans cette ordonnance, on sent une véritable volonté de venir sauver une enquête qui a commencé très large et qui, in fine, termine sur la question des emplois fictifs.
Le candidat de la droite de 2017 renvoyé en correctionnel. Qu'en dit-on dans les rangs des Républicains ? Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Vous êtes à Caen, Élodie, à la réunion publique de François-Xavier Bellamy, aux côtés du patron du parti, Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez, qui a l'évocation d'un futur procès Fillon, nous a opposé cet après-midi une fin de non-recevoir.
Je vous l'ai dit, on est les seuls à porter une campagne européenne. Et donc notre ligne, elle est très claire, on est là pour parler d'Europe, ça répond à toutes vos questions sur la campagne européenne, mais aucune autre question, parce que sinon on ne parle jamais d'Europe. Merci à vous.
François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, lui non plus n'est pas très à l'aise avec le sujet, refusant de dévier des questions européennes.
Moi ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que la France ait manqué en 2017 l'occasion d'un vrai débat sur le fond. On a besoin de faire des choix courageux, des choix importants qui nous attendent. Et en 2017, malheureusement, l'élection présidentielle ne s'est pas faite sur ces sujets-là. Et ma grande crainte, c'est qu'on vive la même chose avec cette élection européenne.
Ne parler que du fond, une règle qui s'applique à géométrie variable quand il s'agit de la polémique Nathalie Loiseau, par exemple. Là, les LR ne mâchent pas leurs mots. Les militants, eux, ont plutôt fait leur deuil et acceptent ce procès, même si certains y voient encore les signes d'un complot contre la droite.
Que le procès ait lieu, c'est normal, puisqu'il y a une malversation ou autre. Mais un mois, juste avant les européennes, depuis 2 ans que ça traîne, je trouve que c'est quand même un peu curieux.
Un timing curieux, mais qui selon eux n'entachera pas la campagne. Pour ces militants LR, Fillon, c'est le passé. L'avenir s'appelle Bellamy.
Élodie Forêt en direct de Caen, merci, avec Marc Garvenet. C'est toujours à propos de politique et des européennes. Le Rassemblement National assure qu'il a réuni l'argent nécessaire au financement de sa campagne, 4 millions d'euros, via ce qu'il appelle un emprunt patriotique auprès de particuliers.
19h07, le journal Sébastien Paour. Sébastien, le groupe État islamique revendique les attentats au Sri Lanka.
Par le biais de son agence de propagande, avec les noms, les photos des auteurs des attaques, il visait des ressortissants des pays de la coalition anti-Daesh et les chrétiens sri-lankais, fermés les guillemets. Et d'après un ministre de Colombo, Sébastien Farcy, les attentats étaient une réponse au massacre du mois dernier dans 2 mosquées néo-zélandaises.
Le ministre de la Défense vient de l'affirmer. Les attentats de ce dimanche de Pâques seraient une réplique à l'attaque d'un suprémaciste blanc contre la mosquée de Christchurch le mois dernier. Il se base pour cela sur une note de ses services de renseignement du 10 avril. Celle-ci affirme que l'un des leaders du groupe islamiste du National Tawhid, Jamaat, accusé d'avoir perpétré les attentats de dimanche, a commencé à mobiliser ses militants sur les réseaux sociaux depuis le jour de cette attaque en Nouvelle-Zélande. La revendication de l'État islamique, elle, n'est pas vraiment une surprise, car le gouvernement considérait déjà qu'un attentat d'une telle ampleur avait nécessité le soutien d'un réseau international. Ces multiples attaques contre des églises et des hôtels de luxe portent du reste la marque de fabrique de Daesh. Mais il est difficile de préciser quelle aide a vraiment pu apporter cette organisation. On sait que 32 Sri Lankais sont partis ces dernières années en Syrie pour se battre aux côtés du groupe islamiste. Certains ont-ils pu revenir influencer et former des musulmans Sri Lankais ? Il est encore trop tôt pour le dire. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et dernier bilan, 321 morts et 500 blessés, mais pas de Français finalement parmi les tués. Les autorités sri-lankaises disent qu'il y a eu une erreur de nationalité. Les arrestations des dernières heures n'ont pas calmé leur colère. Plusieurs milliers d'étudiants étaient encore dans les rues d'Alger aujourd'hui. Ils réclament toujours le départ du système et que le gang des proches du président déchu Bouteflika soit jugé. 5 milliardaires proches de l'ancien clan présidentiel ont été interpellés ces derniers jours, dont l'homme le plus riche d'Algérie, Issad Rebrab, soupçonné de corruption et en détention provisoire depuis hier. Le magazine Forbes le classe 6e fortune d'Afrique, portefeuille estimé à 3,8 milliards de dollars. Ce type d'arrestations vont se poursuivre, Leïla Berato, d'après le chef d'état-major de l'armée.
J'ai appelé l'appareil de la justice à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption. Dans un nouveau message ce mardi, le chef d'état-major algérien assume. Il est derrière les enquêtes qui ont amené à l'arrestation hier de grands patrons, les frères Kouninef et Issad Rebrab. Depuis le 31 mars et l'arrestation du chef du patronat, l'homme d'affaires Ali Haddad, plusieurs personnalités économiques sont interdites de sortie du territoire. Le parquet d'Alger avait annoncé qu'une série d'enquêtes préliminaires était ouverte. Ahmed Gaïd Salah affirme aujourd'hui que ces opérations se poursuivront car selon lui, elles rassurent le peuple. L'argent pillé sera récupéré par la force de la loi, assure le premier responsable militaire du pays. Dans son message, le chef d'état-major s'attaque violemment aux corrompus et aux corrupteurs qui ont implanté, selon lui, je cite, des bombes à retardement dans des structures vitales de l'État. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Donald Trump revient en Angleterre, visite officielle l'été dernier, visite d'État cette fois, c'est-à-dire avec banquet et procession en carrosse dans Londres. Ce sera du 3 au 5 juin avec sa femme Melania. Il verra la reine et la première ministre Theresa May et certains promettent déjà de descendre dans la rue contre sa venue. Trump sera ensuite en France le 6 juin pour le 75e anniversaire du débarquement en Normandie et une rencontre avec Emmanuel Macron. Autre rencontre, autre endroit, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, le président russe et le leader nord-coréen ont rendez-vous jeudi à Vladivostok. Ils parleront notamment nucléaire.
Sébastien, 1 million d'espèces pourraient être menacées d'extinction dans les prochaines décennies.
Oui, constat alarmant que l'on trouve dans un projet de rapport des Nations Unies avant le grand rendez-vous qui débute lundi prochain à Paris, sorte de GIEC de la biodiversité. 130 pays se retrouvent pour acter cet état des lieux des espèces animales et végétales de la planète. Et il n'est pas donc rassurant cet état des lieux. Bonsoir Célia Kigrem.
Bonsoir Sébastien.
8 millions d'espèces sur la planète et 500 000 à 1 million tout simplement menacées de disparaître.
Oui, d'après ce document encore provisoire, près d'une espèce sur 8 pourrait donc être menacée, dont beaucoup dans les prochaines années. C'est un phénomène qui s'accélère. Autre élément très marquant, les 3/4 des surfaces terrestres, 40% de l'environnement marin et la moitié des cours d'eau ont été gravement altérés. Ce soir, la Fondation de la biodiversité en France ne peut confirmer précisément ces données puisque le rapport des scientifiques peut encore être affiné. Mais il reprend tout de même toutes les études scientifiques parues ces derniers mois sur le sujet et qui estiment que la Terre est bien au début de la 6e extinction de masse. Exemple, 85% des insectes volants ont disparu en Allemagne ces 35 dernières années. C'est l'un des résultats, par exemple, de la dernière évaluation pour l'Europe et l'Asie centrale de cette plateforme intergouvernementale pour la biodiversité. Que ce soit les pesticides, la pollution, l'utilisation des terres ou la déforestation, les facteurs sont nombreux et les impacts sur l'homme sont considérables. Plus de 2 milliards de personnes dépendent du bois pour l'énergie. 4 milliards utilisent une médecine naturelle et 75% des cultures ont besoin d'être pollinisées par les insectes. Ce rapport sera sur la table des décideurs présents à Paris la semaine prochaine. Le but est que les acteurs politiques se rendent compte enfin de ces enjeux et émettent des recommandations. Ils ont une semaine pour en débattre. Les propositions, elles, seront connues le 6 mai prochain.
Et on suivra ça, évidemment. Merci Célia qui irait. Des propositions, mais toujours pas d'accord entre les grévistes des urgences de Paris et la direction de l'AP-HP. Les négociations se poursuivent. L'assistance publique hôpitaux de Paris propose des mesures, mais les grévistes les jugent pour l'heure insuffisantes, Lisa Guyenne.
La semaine dernière, la direction proposait déjà d'augmenter la prime de risque ainsi qu'une prime de 250 euros pour tous les paramédicaux. Aujourd'hui, elle rajoute une augmentation de 100 euros mensuels uniquement pour les infirmiers au titre du protocole de coopération, explique Sylvain Ducros, directeur des ressources humaines de l'AP-HP.
C'est une nouveauté issue du plan Ma Santé 2022 et qui permet aux infirmiers de se voir déléguer certaines fonctions par les médecins des services d'urgence. Ça peut être de la prescription, notamment prescription d'actes de radio, prescription dentalgique, moyennant une augmentation de 100 euros net par mois.
Une prime qui concernerait donc les infirmiers, mais pas les aides-soignants, et dont le montant reste inférieur aux 300 euros d'augmentation générale demandée par les grévistes. Hugo Huon travaille à Lariboisière, c'est l'un des porte-parole du collectif Interurgence.
Cette prime ne correspond pas à ce que nous on attend pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle est inégalitaire, elle ne concerne que quelques infirmiers qui feront de l'accueil et pas tout le monde. Et elle ne répond pas aux problématiques d'attractivité que nous soulevons depuis le début avec le collectif Interurgence.
La direction propose aussi d'accélérer la mise en place des effectifs supplémentaires. Les 61 postes promis, ils pourraient arriver dans les services dès le début de semaine prochaine. Mais ce chiffre reste encore très insuffisant pour le collectif qui appelle donc à poursuivre la mobilisation.
Et pour l'heure, 16 services d'urgence à Paris sur 25 sont toujours en grève. Des chiffres encore, ceux du salaire du privé donné par l'INSEE pour l'année 2016, toujours toujours un grand écart entre les bas et les hauts salaires. Mais dans l'ensemble, Fabien Cazot du secteur privé, la tendance reste tout de même à la hausse.
La hausse des salaires dans le privé se confirme année après année, modeste mais supérieure à l'inflation. Selon les chiffres définitifs publiés par l'INSEE pour l'année 2016, ils ont progressé de 0,5%, plus de deux fois plus vite que les prix. Le salaire moyen dans le privé s'élève à 2238 euros net par mois pour une personne travaillant à temps complet. C'est dire à quel point le secteur marchand tire aujourd'hui vers le haut la pyramide des salaires en France. L'embellie concerne en particulier les cadres, plus précisément dans l'industrie et dans une moindre mesure dans le commerce et la construction. L'inégalité entre les femmes et les hommes reste encore marquée. Dans le privé, les femmes gagnent encore 19% de moins que les hommes. Un écart qui commence à se réduire, selon l'INSEE, du fait d'une meilleure accession des femmes au métier d'encadrement. Dans ces fonctions, leur salaire net moyen a tendance à progresser plus vite que celui des hommes.
Le Conseil d'État rejette les demandes de rapatriement de Françaises de Syrie. Elles sont quatre épouses de djihadistes retenues avec leurs enfants dans des camps syriens. La plus haute juridiction française estime que leur rapatriement est de la responsabilité de la diplomatie française. Protéger Notre-Dame de Paris de la pluie attendue cette semaine, on fera un point sur la météo avec Élodie Calac dans un instant. Eh bien, une bâche est en train d'être posée sur la cathédrale. Ce sont des alpinistes qui sont à pied d'œuvre.
Sébastien Paour, les sports, c'est la première fois dans l'histoire du foot français.
Oui, c'est une première. Une femme va arbitrer un match de Ligue 1 en tant qu'arbitre principal. Ce sera dimanche entre Amiens et Strasbourg. Bonsoir Fanny Lechevestrier.
Bonsoir Sébastien.
Elle s'appelle Stéphanie Frappard, cette arbitre. Elle officie depuis 5 ans en Ligue 2, mais jamais aucune femme avant elle n'avait donc été arbitre centrale en première division.
Oui, alors vous avez peut-être un nom qui vous vient quand on dit cela, celui de Nelly Viennot, pionnière de l'arbitrage à la fin des années 90. Mais Nelly Viennot n'avait été, entre guillemets, que juge de touche à ce niveau de compétition. Dimanche 28 avril sera donc un jour historique pour le football français. Après avoir été la première femme et seule femme encore aujourd'hui en Ligue 2. Stéphanie Frappard sera donc la première à diriger un match de Ligue 1. Mais ce n'est pas une fin en soi pour celle qui a déjà été au sifflet cette saison d'un match de Coupe de France masculine où jouait Saint-Etienne. Et surtout, elle refuse l'étiquette d'être là parce que c'est une femme. C'est ce qu'elle confia au micro de France Inter il y a 10 jours.
Moi, je veux monter en Ligue 1 seulement si j'ai les compétences. Je veux pas que, comme ça a pu être dit dans les médias, voilà, c'est parce qu'il faut une femme, etc. Donc voilà, je pense qu'avec Corinne Diacre, on a prouvé qu'on avait nos places respectives à ce niveau-là et c'est la plus belle des reconnaissances.
Corinne Diacre, qui avait été la première à entraîner un club de Ligue 2, aujourd'hui à la tête de l'équipe de France féminine. Alors ce qu'on peut espérer, c'est que l'expérience ne sera pas seulement celle d'un unique après-midi. Ce match dimanche entre dans le cadre de la préparation de Stéphanie Frappard pour la Coupe du Monde féminine cet été et pour laquelle elle a été retenue. On espère qu'on verra plus souvent Stéphanie Frappard ou d'autres femmes arbitres en Ligue 1. L'Allemagne a déjà franchi le pas. Depuis septembre 2017, Bibiana Steinhaus officie régulièrement en Bundesliga.
Alors on suit les traces de l'Allemagne. Merci Fanny Lechevestrier. On termine avec la sortie demain au cinéma du nouvel épisode des aventures Avengers. Avenger Endgame, c'est le nom de cet épisode. Super production Marvel, très attendu si vous aimez les super-héros en slip et en marteau avec bouclier ou en combinaison métallique. C'est demain dans tous les cinémas, mais dès ce soir au Grand Rex à Paris, avec un marathon Avengers, trois films projetés à la suite, Mathieu Message, avant donc le dernier opus à minuit.
1200 fans survoltés dans la plus grande salle du Grand Rex, parmi eux Lola. Elle attendait l'ouverture de la salle depuis ce matin avec une excitation toute particulière.
J'ai quand même grandi avec eux, donc c'est vrai que les voir là au grand large, en plus, cette nuit j'en ai pas dormi quoi. Enfin, j'ai même rêvé comme si je passais un examen, que je pouvais pas y aller ou que j'arriverais en retard. Ils sont assez proches de mon univers, donc forcément ça fait quelque chose quoi.
À ses côtés, il y a Jordan, un grand fan de Captain America. D'ailleurs, il a prévu d'exécuter le marathon avec le bouclier de son héros.
C'est vraiment le genre d'événement où on peut venir déguiser, on s'en passait pour un fou. Donc voilà, il y a des objets qu'on a liés au film, c'est toujours bien de les amener pour communier avec d'autres fans, faire des photos, etc.
Bienvenue au Grand Rex, aujourd'hui c'est le marathon Avengers.
Le coup d'envoi va bientôt être donné, c'est parti pour 10 heures d'Avengers. Marianne a pris ses précautions.
J'admets que j'ai prévu de dormir sur le deuxième épisode qui n'était pas mon préféré. Et donc du coup j'ai prévu de faire la sieste à ce moment-là pour tenir pour le dernier.
Pas vu de spoiler sur les réseaux sociaux?
Rien du tout, là je coupe, j'ai tout coupé et voilà, comme ça on l'a enfermé dans la salle, c'est bon, on est sûr de, voilà, que rien n'est fuité, donc non.
Un événement qui ravit les fans de la saga, en espérant qu'Avengers Endgame propose une fin à la hauteur de leurs attentes.
Avant-première donc, ce soir au Rex et demain partout en France. Et en attendant, vous pouvez tester vos connaissances sur les super-héros Marvel sur le site d'Inter, franceinter.fr. Un quiz concocté par la rédaction numérique qui s'y connaît en super-pouvoir. Moi, j'ai testé. J'ai fait 6 sur 20.
Bravo.
Ah bon? Pas terrible.
Sébastien Paour, c'était le journal. À demain soir, Sébastien.
À demain.
La météo.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Élodie Calac de Météo France est avec nous. Élodie, encore agité demain le temps?
Oui, du sud-ouest vers le centre, la région parisienne, la Manche, le nord de la Seine et Champagne-Ardenne. La matinée sera balayée par un passage pluvieux, alors d'abord de la Bretagne aux Pyrénées, et puis il remontera en direction des frontières du nord. Ensuite, on aura droit à un ciel d'averse, avec des averses plus nombreuses sur le nord-ouest, un risque d'orage. Sur les plaines du sud-ouest, en revanche, peu ou pas d'averse. Et puis ça soufflera sur toutes ces régions, 50 à 70 km à l'heure, bien plus sur les Pyrénées, 110 attendus. Entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le massif central, de bonnes pluies, parfois orageuses au programme encore. Elles gagneront vers le Lyonnais, la Franche-Comté, l'Alsace et l'Est de la Lorraine l'après-midi. Et puis le vent de sud, là aussi, se renforcera jusqu'à 90 km à l'heure.
Élodie, les températures poursuivront leur baisse.
7 à 13 degrés en effet le matin. L'après-midi, seulement 14 à 20 degrés. Il restera encore un petit peu de douceur tout de même sur le nord-est avec 20 à 25 degrés.
Élodie Calac de Météo France, merci.